Philosophie première, la personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 4 novembre 1998 à Saint-Jotard.
À quel moment se situe dans la démarche de la philosophie première le problème de la personne ? Que j'expérimente. Je l'expérimente. réalité qui s'impose à moi. Le monde physique s'impose à moi. Le monde des vivants s'impose à moi. Et en dernier lieu, pas du de l'être. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant tout le temps à voir et à creuser. Il faut que ça devienne pour vous une expérience que vous constatez. Vous ne pouvez pas diviser la philosophie autrement. Ça s'impose. Tandis que quand je pars du « je suis », l'aspect de la subjectivité qui commande tout, nous n'avons plus du tout les mêmes divisions philosophiques. Il y a une unité d'immanence qui s'impose à moi. Je suis travaillant, je suis aimant, je suis coopérant. C'est toujours moi. Mais si je commence par l'aspect de la subjectivité du « je suis », puis ensuite, je fais partie de cet univers. Je fais partie de cet univers. Je fais partie du monde des vivants, l'immanence. Et dans ce monde des vivants, je suis l'être supérieur. Je suis plus parfait que tous les autres vivants. Je suis donc le terme. Il y a un lien avec eux. On invente l'évolution. On l'invente, vous voyez ce que je veux dire. On essaie de tout expliquer par l'évolution. Et je suis au terme de l'évolution. Donc, quand je vois ce point de vue de l'immanence, le problème de la personne, je dirais, se pose dès le point de départ. Je suis travaillant. Je suis aimant. Dans l'amour d'amitié, et je suis coopérant. Et on verra dans quelle mesure, quand nous poserons le problème de la personne, dans quelle mesure ces dimensions de la personne sont présentes. Est-ce que le problème de la personne va être le problème de la rencontre, de l'objectivité, de la subjectivité? C'est ça qui est intéressant. Et c'est au fond aussi là la difficulté. C'est qu'à cause du problème de la personne, je tombe très facilement dans un primat de la subjectivité. C'est vrai. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse dans le monde, pour la plupart des gens, c'est le développement de leur personne. Et dans toute vie religieuse, il y a un moment de crise. Pas au noviciat. Et comme il y a une crise pour les gens qui sont mariés au bout de 10 ans, au bout de 10 ans, il y a une crise pour les religieux. C'est bête, mais c'est comme ça. Il y a l'âge bête, vous savez, comme on disait avant. C'est à 10 ans que ça commence. Alors il y a un âge bête intérieur. Ah, la vie religieuse ne développe pas en moi toutes mes possibilités. J'aurais pu être un génie. Je ne le suis pas dans la vie religieuse. J'aurais pu faire ça. Je ne le suis pas dans la vie religieuse. On a taillé ce pauvre arbre avec le permettre, avec les prieurs qui n'y comprennent rien du tout. dans les psaumes, mais dans la nouvelle alliance, l'église c'est la vigne. Regardez un vieux pied de vigne qui a 2000 ans, comme il est taillé. Oh là 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 là. Taillé par tous les bouts. Et aussi, il s'habille encore. Mais c'est vrai, c'est quand même quelque chose d'est assez étonnant qu'on réfléchit là-dessus. Et on appliquera métaphoriquement, mais réellement, ben, à l'Église, le mot de personne, c'est la personne du Christ, mystiquement, mystitué, c'est la personne du Christ. Donc la vigne est la personne, elle est bien taillée. C'est ce problème-là qu'on va regarder, n'est-ce pas, et qui est au fond capital. Alors, on aborde le problème de la philosophie première, du non-métaphysique. On aborde le problème de la philosophie première. Qu'est-ce que c'est l'être, ce qui est le Toon Eon. Et j'interroge, puisque c'est mon intelligence qui s'éveille quand elle interroge, est-ce que je peux connaître l'être en tant qu'être? Toutes mes expériences sont sur le devenir, intérieur ou extérieur. Vous ne voyez que le devenir, que la croissance, que le travail. Le travail, c'est mon devenir par rapport à la pierre, par rapport à la terre, par rapport à l'univers, par rapport à l'eau. Le travail, mon devenir intérieur. Cette interrogation, vous ne pouvez pas décrire l'être. avait d'une certaine manière la description de l'être par les 10 prédicaments. Vieille histoire, les 10 prédicaments. Il faut connaître par cœur ça. Hein. On vous demande pas très souvent de savoir quelque chose par cœur en philosophie, mais là il faut le savoir. La liste des 10 prédicaments. Les 10 prédicaments, c'est quoi? C'est la première description de ce qui est, en tant qu'il est, la réalité la plus parfaite que vous voyez, c'est Pierre, c'est Jacques, c'est Edmond. C'est l'homme. La toute première réalité, c'est papa. La première réalité, tout à fait première. Puis vous avez découvert l'homme. Ça, vous avez découvert en premier lieu. Il y a Pierre. Vous avez décrit Pierre. Ah, il est intelligent. Ah, il est capable d'aimer. Les 10 prédicaments. que c'est philosophique, c'est descriptif. Vous pouvez décrire homme, pouvez-vous décrire, vous pouvez décrire pierre, pouvez-vous décrire homme, non. L'homme, ça se décrit pas, ça se pense. Animal, raisonnable. Et le saper n'a pas dit foi et animal. Il a dit foi et raison. Ça, ça fait penser. Foi et animal. Non. Non. Y a-t-il une harmonie? Non. C'est super. Au-dessus. Pierre, homme, puis quantité, le poids, volume, c'est important. Puis les qualités, alors là, il y a toute une liste énorme. Puis les relations, puis le lieu, le temps, la manière dont on se situe par rapport à tout cela. La capacité de souffrir, la passion. Je pâtis. L'homme dans tel milieu pâtit. Il pâtit plus quand il est dans un pays où la température est extrême que dans une température moyenne, ni chaud ni froid. Effectivement, ni chaud ni froid, je l'ai vomi. Mais au point de vue température physique, au contraire, c'est agréable. Ni chaud ni froid. Je suis dépendant de tout ça. Je suis dépendant d'un milieu. Et ça me qualifie d'une certaine manière. Et le temps aussi me qualifie. Si j'étais né au Moyen-Âge, je ne serais pas ici, maintenant. Ce que c'est passé. Alors le passé, où est-ce qu'il existe le passé? Dans ma mémoire. Il n'existe pas autrement. Ah, peut-être il y a encore des traces. Si mon arrière-arrière-arrière-grand-père avait construit une maison, un château fort, ça reste. Si mon grand-père n'avait qu'une petite maison de chaumière, plus rien, plus rien. Tiens, il y a des choses qui résistent au temps. Il y a des choses qui ne résistent pas. Ça, je décris l'homme, Pierre. Il est homme. Vous voyez, alors, les dix prédicaments, c'est à la fois logique et c'est en même temps humain. C'est descriptif. C'est la première façon dont on a fait la philosophie de l'homme. Et ça reste dans les cartes d'identité. Dans la carte d'identité, on va jusqu'à la couleur des yeux. On va jusqu'au la taille. Pas encore le poids, c'est trop variable. Mais la taille, arrivé à un certain âge, ça reste le même. Ça commence à diminuer. Quand on descend le haut plateau, on a monté jusque-là, on est resté haut plateau pendant des années, puis tout d'un coup, ça commence à glisser, on glisse, on dégringole. Alors on s'arrête pour ne pas dégringoler trop vite. On décrit. Puis à un moment donné, on dit mais on peut peut-être aller plus loin, chercher d'où ça vient, chercher ce que cela signifie. Alors on analyse par les interrogations. Oui, description. Je décris tout ce que j'expérimente. Et l'artiste le sait. Et l'artiste décrit à sa façon. De façon très étonnante. Il décrit en sculptant, il décrit en peignant, différents journalistes ou ses plans. Des choses essentielles et les choses secondaires, ordinairement soumises au même niveau, style journalistique. Les choses après, à telle heure et tel événement, à telle heure, tel événement, à telle heure. Oui. C'est regarder de l'extérieur. Il y a multiples façons de décrire. La fémologie est une philosophie de la description. Mais intérieure. Pas la description du journaliste, la description intérieure. Où je mets en lumière ce qui m'a marqué. C'est très proche de l'art, mais ce n'est pas l'art. C'est une chose plus intérieure. J'essaie de saisir ce qu'il y a de premier. La phéologie essaie de saisir le noyau premier de la signification de toutes les réalités que je connais, que j'aime. Je décris l'ami. J'en ai eu beaucoup. Je décris l'ami type. Je décris le savant. Je décris l'artiste, je décris. Et je cherche le noyau principal, premier. Je parle de la table. Bien, il y a une table qui commande toutes les autres tables. Le premier, gros exemplaire. C'est au fond ça que je cherche. Éperdument. Mais intérieurement. Mais il y a des interrogations qui vont plus loin. Tout ce que je vois dépend d'un devenir. Alors j'interroge pour comprendre les causes, les principes, ce qui est antérieur à cette description. Parce que cette description reste complexe. Je veux l'analyser. Alors, j'ai les diverses interrogations. En quoi ? Ce qu'elle est, cette chose ? D'où elle vient ? Sa finalité ? Chercher les grandes interrogations possibles. Alors, il y a tout de suite la division très nette du pourquoi et du comment. Et je reviens tout le temps là-dessus. C'est très important aujourd'hui de s'arrêter beaucoup à l'interrogation. Et quand il s'agit de savoir ce qu'est la réalité, ce qu'est la réalité, alors il y a des réalités matérielles. Matière. Il y a des réalités qui ne dépendent pas nécessairement de la matière. Est-ce que l'être dépend de la matière ? Très grande interrogation et très importante interrogation. Est-ce que comme ça. Ce qu'on appelle les matérialistes. Où la matière reste. Mais dès que je pense, même le matérialiste, dès qu'il pense, est-ce que sa pensée est liée à la matière ? Dès qu'il commence à aimer. C'est pour ça que quand vous avez affaire à un matérialiste, demandez tout de suite s'il est marié. Est-ce qu'il j'aime quelqu'un. Et puis vous essayez de faire comprendre que l'amour qu'il a pour quelqu'un ne peut pas se peser. Ça ne se pèse pas, l'amour. Ah, est-ce que c'est réel? Pour certains, non, c'est pas réel, c'est conventionnel. Non, parce qu'on m'a beaucoup parlé quand j'étais jeune d'amour, d'amitié. Alors j'ai dit, bon, je fais comme les autres, c'est mon ami. C'est vrai, pour beaucoup de personnes, l'amour est conventionnel. Mais est-ce que l'amour est toujours conventionnel? Celui qui a aimé le premier, faut bien qu'il y en ait un qui a aimé le premier. C'était pas conventionnel. Les autres ont peut-être imité. Les autres ont peut-être copié. Le conventionnel, c'est quand il n'y a que la copie. Quand il n'y a que l'imitation. Et quand je découvre quelqu'un et que je l'aime, et la première recherche, c'est de voir que la réalité n'est pas toujours matérielle. Il existe des réalités spirituelles. L'être, comme tel, n'est pas lié à la matière. Ce qui est, comme ce qui est. Et il n'est pas non plus lié à l'esprit. Il y a des réalités qui existent et qui ne sont pas spirituelles. Je le sais. Quand je mange, ce sont des réalités qui ne sont pas spirituelles. Je mange une carotte, comme l'ours. Non, je suis semblable à lui. Je suis semblable au petit lapin qui mange sa carotte. Des réalités physiques. Il y a des réalités qui ne sont pas physiques. Et dans les traditions religieuses, on voit le ciel et la terre. Tiens, curieux. Le ciel, ah, c'est quelque chose qui est au-dessus. Puis la terre, c'est quelque chose qui est en dessous. Et l'homme a un bras pour le ciel, un bras pour la terre. Il est l'horizon. Il touche aux deux. Alors un beau jour, on va chercher qu'est-ce que c'est que l'être. Et c'est une interrogation fabuleuse. À un moment donné, on s'est posé qu'est-ce que c'est que l'être. Et la philosophie première, c'est quand on se pose cette question. Tant qu'on ne sait pas poser cette question, la philosophie première, la métaphysique, n'a pas de sens. Elle prend son sens quand on se pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» C'est pas Pierre, parce que Pierre existe, mais il y en a un autre. Donc Pierre n'accapare pas l'être. Pierre existe, et à côté de lui, il y a Édouard. Édouard existe. Et à côté de lui, il y a Jean. Et Jean existe. Donc Pierre n'est pas l'être. Alors, qu'est-ce que c'est? Il existe. D'une manière tout à fait particulière. Mais il n'est pas l'être. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être? Posez-vous la question, hein, jusqu'au moment où, subitement, vous avez dit, mais oui, quand je dis « ceci est », c'est pas la même chose que quand je dis « ceci ». Qu'est-ce qu'ajoute mon langage « ceci est » Qu'est-ce qui s'ajoute à « ceci » « Ceci est », il est « ceci ». donc, et s'ajoute sans différencier le ceci. Oh, c'est extraordinaire, ça. Il y a donc une attribution qui n'ajoute rien à la détermination. Ça, c'est fabuleux. Si ça n'ajoute rien à la détermination, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est que ceci, comme ceci, peut être uniquement dans mon intelligence. Et le ceci est, il est en dehors. Je ne peux pas le mettre dans ma poche. Oui, je peux le mettre dans ma poche, il n'est pas très grand. Mais s'il est très grand, je ne peux plus. Une montagne existe. Le Mont Blanc existe. Je ne peux pas le mettre dans ma poche. Impossible. Ça fondrait. Je ne peux pas le mettre dans ma poche. Je suis donc dominé par des réalités à cause de leur grandeur. La quantité a cet immense avantage, c'est que là, je suis obligé d'accepter qu'il y a des réalités autres que moi qui me dominent. C'est pour ça qu'on voudrait tellement que la quantité soit épuisée. Parce que c'est la quantité qui me donne le premier sens de quelque chose qui me dépasse, que je ne peux pas mettre dans ma poche. Je ne peux pas mettre dans mon esprit. C'est en dehors. Vous voyez, les premières distinctions tout à fait fondamentales par rapport à l'interrogation « Qu'est-ce que c'est que ce qui est ? Qu'est-ce que c'est que le Tôn ? Ce qui est en tant qu'il est. Pas en tant qu'il est dans le devenir. Parce que tout de suite, le devenir, je le mesure en tant qu'il est. L'être, je ne le mesure pas. Il est au-delà de toute détermination. Il m'échappe. Alors, la quantité échappe à mon expérience. Et l'être échappe à ma pensée. Ceci est. Tant que je n'ai pas saisi ce qu'il y a d'étonnant dans le ceci est, je n'entre pas en philosophie première. Ce qui est très important. Historiquement, la pensée humaine s'est posée la question. Parménide, ce qui est. Non pas le devenir, ce qui est. Et quand je pose ce qui est, je dis, mais c'est au-delà du temps. Le devenir, il est dans le temps. Donc, le devenir ne peut pas être éternel, il est dans le temps. Tandis que ce qui est n'est pas dans le temps. Au-delà du temps, je vois que ce qui est au-delà de toute détermination. Alors, comment connaître ce qui est ? Qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'ordre des déterminations ? Où je découvre la détermination dans toute sa pureté, c'est la qualité. La qualité et la noblesse de l'être, sa détermination. L'être est au-delà de la qualité. Il est. Et en tant qu'il est, il peut être n'importe quelle détermination. Alors, j'interroge. Il est au-delà de toute détermination. Qu'est-ce qu'il est ? Oui, je comprends très bien que cette interrogation est fondamentale. Et elle se pose tout le temps pour chacun d'entre nous. C'est l'interrogation. C'est que l'être matériel, c'est un jouet. C'est un jouet. L'interrogation d'avoir qu'est-ce que c'est que l'être, ah, c'est plus du tout un jouet. La preuve, c'est que des quantités de personnes d'intelligence humaine ne se posent plus et ne veulent plus se poser. Et au fond, dans un siècle, comme on dit, on ne s'intéresse qu'à ce qu'on possède. C'est vrai. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est la définition du petit bourgeois. Il ne s'intéresse que qu'à ce qu'il possède. Le reste, c'est le voisin. Et le voisin, il est au-delà de ma propriété. Donc, il est au-delà de moi. Ça m'intéresse pas. Qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il me laisse tranquille, moi. Alors, je comprends que pour le petit bourgeois, n'existe que ce que je possède. N'existe que ce qui est à mon usage. Tout ce qui est en dehors de mon usage, je ne possède pas. Et ça n'existe pas. Et ça, c'est la tentation terrible du philosophe. Est-ce que n'existe que ce que je possède ? Ce que je possède, c'est ce que je comprends. Donc, n'existe que le vécu. Le vécu intellectuel. Le vécu affectif, le vécu juridique, le vécu qui est à ma portée. Et pour la vache qui est fixée à un poteau, on a tous vu ça dans le temps, mais dans ça ne se voit plus beaucoup. Là on voit qu'elle tire sur sa ficelle le plus possible, sur sa chaîne le plus possible. Et au bout d'un certain temps, tout ce qui est à la longueur de la chaîne est parfaitement tendu. Parfaitement. Et puis il y a des coups de langue qui essaient de ramener. Mais pas beaucoup, puisque ça se fait. Le cou est tendu, alors la langue est moins longue. C'est curieux, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que la féminologie ? C'est étudier mon vécu. N'existe que mon vécu. C'est terrible. Quand on a compris ça, c'est terrible. Je m'enferme moi-même dans une méthode de petit bourgeois. N'existe que ce qui m'appartient. Quelqu'un qui vous dit ça froidement, ça vous met en colère. Alors l'autre, je ne peux pas l'utiliser. Qu'il devienne mon esclave, très bien. Qu'il devienne mon serviteur, très bien. Je l'utiliserai. Il existera à ce moment-là. C'est l'usage qui met la mesure de l'être. Un usage intérieur de la pensée, de l'affectivité, mais c'est l'usage. Alors, vous voyez, quand on l'applique à la fois, la foi me fait et Dieu, ce n'est pas celui qui est mon serviteur, mais c'est celui qui est mon maître. Il existe avant moi. Il a existé avant moi. Ça fait tout sauter. Je peux rien dire de lui. Dieu ne m'intéresse que dans la mesure où il intervient dans ma vie. Petit bourgeois. Ben non, quoi. La réalité, si Dieu existe au-delà de vous, ayez le courage de reconnaître que vous dépendez de lui et qu'il a existé avant vous. Alors voyez, la question qui serait très intéressante, c'est une question de théologien. Qu'est-ce que je peux saisir de Dieu avec la méthode phénoménologique? Avec ce fait que n'existe que ce qui est dans mon usage. Ça n'existe pas. Je ne connais pas. Donc ça n'existe pas. N'existe que ce qui est à ma portée. Que ce que je connais. Alors à ce moment-là, ça existe. Vous voyez, tous ces dépassements que je dois faire pour arriver à saisir l'être comme être. Merleau-Ponty, au point de départ, il est dans la phénoménologie. Parce que c'était la philosophie première qu'on lui enseignait, son premier amour. Et comme Merleau-Ponty est un homme intelligent, il y a ce que j'ai oublié, c'est l'être sauvage. L'expérience que fait la vache quand elle est attachée au poteau, au piquet, elle peut manger tout ce qui est au-dessus, mais elle voit au-dessus de l'herbe verte qui pousse tout droit et qui n'est pas mangée. L'être sauvage, je trouve ça merveilleux. Découvrir subitement l'être sauvage, l'être au-delà de ce qui est pour moi, de ce qui est à moi. L'être sauvage par excellence, c'est Dieu. Dieu, c'est pas premièrement celui que j'atteins dans mon expérience. C'est l'être premier, avant qu'il existe. Et l'être sauvage, par excellence, celui vers lequel je tends sans le posséder. Je ne le possède pas. Et il est celui que je peux contempler sans mettre la main dessus, sans l'utiliser. Je ne l'utilise pas. La catégorie utile est dépassée par quelque chose qui est avant moi. L'être, quand il se ramène au devenir, est mesuré par le temps. Mais l'être distinct du devenir n'est plus mesuré par le temps. Alors, il est au-dessus. Alors, je pose la première question métaphysique. Qu'est-ce qui est premier dans ce qui est en tant qu'être? J'ai dit l'être est au-dessus de toutes les déterminations. Mais il est avant les déterminations. Qu'est-ce qui est avant les déterminations? C'est ce qui reçoit toutes les déterminations. Ah tiens, ce qui reçoit toutes les déterminations est avant les déterminations. Donc, c'est la substance, ce qui est capable de recevoir toutes les déterminations. Mais la substance, non pas dans son existence limitée, c'est la substance en tant qu'elle est première dans l'ordre de l'être. Au-delà du sujet pierre, au-delà de la détermination homme, c'est ce qui est premier, au-delà de toute détermination. Je découvre ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Mais comme j'ai tout de suite compris, quand je dis ceci est, que l'être est au-delà de tout.